France Musique.
8h31, bonjour Carole Beffa.
Bonjour Jean-Baptiste.
Pianiste, compositeur, professeur, auteur de beaucoup de livres, mais là, un roman graphique, c'est nouveau, Ravel, un imaginaire musical avec Alexis Cavaillès et Guillaume Métayer. Ça vient de paraître au seuil Delcourt. D'abord, je citais toutes ces activités. On vous entend régulièrement sur France Musique, improviser notamment. Je signale qu'on peut revoir vos improvisations chez Clément Rochefort il y a quelques semaines dans Génération France Musique, le live. Comment vous faites? Vous dormez peu?
Si, j'ai besoin de beaucoup dormir, même si je suis de temps en temps sujet aux insomnies, comme Ravel à la fin de sa vie. J'espère que je vais pas terminer comme lui. Mais non, j'ai besoin de beaucoup dormir.
Suractif?
Je sais pas, j'ai besoin de faire des choses très différentes les unes des autres, enseigner, faire de la recherche, composer, produire en public, parce que la composition c'est quand même une activité très solitaire, assez éprouvante et parfois un peu déprimante, même si c'est aussi un des plus beaux métiers du monde. Donc voilà, faire différentes choses, des choses à plusieurs, comme ce roman graphique à six mains, on peut dire. C'est une façon de ne pas s'ennuyer et de penser à autre chose.
C'est quoi la différence entre une bande dessinée et un roman graphique? Moi, je vous avoue, c'est mon premier roman graphique.
Mais vous avez le droit. On peut dire que le roman graphique a une structure un peu plus souple. C'est-à-dire que là où la bande dessinée aura forcément des cases et des bulles, le roman graphique n'en a pas forcément. Et dans notre cas, en plus, on a imaginé, après à peu près 150, un peu plus de pages, qui sont effectivement sous la forme d'une bande dessinée, mais un peu plus souple, un texte qui soit effectivement écrit, qui est un pur pastiche, pas une seule ligne née de Roland Manuel, mais c'est un pur pastiche qui permet de compléter notre portrait. Dans ce cas-là, les images sont vraiment une illustration du texte, et pas tellement comme on peut avoir un principe de case et de bulle.
Vous évoquez Roland Manuel parce qu'il y a, à la base de ce roman graphique, on peut dire un artifice narratif. C'est l'histoire de Ravel, juste à la fin de sa vie, qui convoque son ami Roland Manuel pour raconter des moments de sa vie. D'ailleurs, ça fourmille à la fois d'anecdotes, d'événements. Enfin, c'est extrêmement complet. On apprend énormément de choses. C'était le point de départ parce qu'il existe un vrai ouvrage. Pourquoi cet artifice narratif?
Parce que je pense que ce que nous avions d'abord fourni avec mon co-auteur, co-scénariste on peut dire, qui est Guillaume Métayer, et moi, au Seuil et à Delcourt, qui sont les éditeurs, qui était censé être un scénario, était en réalité assez loin du scénario de bande dessinée. C'était une histoire qui avait certainement des qualités littéraires, mais il manquait probablement ce mouvement, cette urgence que un découpage en 6 journées, plus cette coda, pouvait permettre d'avoir.
Alors quand on ouvre le livre Ravel, un imaginaire musical ouvert en plein milieu, il y a aussi des grandes pages avec des dessins d'Alexis Cavaillès. Et là, je suis sur le lever du jour de Daphnis et Chloé, où on voit, je crois, c'est Pierre Monteux qui dirige.
Oui, en tout cas, alors on s'est posé une question d'ailleurs pour ce passage-là comme pour d'autres, parce que dans la vie de Ravel, ça manque un peu de femmes. On connaît pas très bien sa sexualité, on a quelques hypothèses là-dessus, mais on ne sait pas grand-chose. Et on s'est demandé, est-ce qu'on peut se permettre, dans ce qui serait probablement l'orchestre national de l'époque, de faire figurer des femmes instrumentistes? Alors, effectivement, on a décidé qu'il y en aurait. D'abord parce que rien ne nous dit avec certitude qu'il s'agit effectivement de l'orchestre national d'alors. Ça peut être un souvenir de Ravel, quasiment 20 ans plus tard, se demandant voilà ce qui a été la première et quels en sont ses souvenirs. Mais effectivement, on a ce lever du jour qui fait partie, je pense, Daphnis et Chloé. On ne sait pas exactement l'œuvre préférée que Ravel portait dans son cœur, mais il est bien possible que Daphnis et Chloé en fasse partie.
Il y a des femmes, c'est sûr, dans l'ensemble Les siècles de François-Xavier Roth, qui joue ici ce lever du jour de Daphnis et Chloé. Le lever du jour, troisième partie de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel, les siècles, l'orchestre et le chœur, sous la direction de François-Xavier Roth, car il y a aussi cette histoire chœur ou pas chœur que vous évoquez, Carole Beffa, dans Ravel, un imaginaire musical au seuil d'Elcourt, avec cette querelle avec Diaghilev sur laquelle revient votre Ravel dans le roman graphique.
Oui, j'ai une préférence pour la version avec chœur, même si la matière musicale, harmonique notamment, et orchestrale est tellement belle qu'on peut aussi s'en passer. En tout cas, j'ai toujours souvenir, quand j'écoute ça, de l'utilisation faite par Arnaud Desplechin dans un de ses premiers films, Comment je me suis disputé, où c'est très beau la façon dont il imagine d'avoir ça comme musique d'accompagnement. De toute façon, c'est vrai que ce lever du jour, c'est un modèle absolu en matière d'orchestration et en matière aussi de gestion du temps, de la durée, parce que avec cette façon qu'a Ravel d'imaginer non pas un point culminant, mais plutôt deux, voire trois, avant que le discours ne puisse reprendre et aller vers tout à fait autre chose, c'est magistral comme leçon de composition.
Alors, ce roman graphique, Ravel, un imaginaire musical, le projet est né comment? C'était, il s'adressait à qui? Je sais pas, là, on est à quelques semaines, mois de Noël. Est-ce que les enfants, on va parler de l'enfance d'ailleurs dans un instant, c'est aussi pour les enfants?
Tout à fait. C'est aussi pour les enfants. Enfin, c'est pour tout public, on va dire. C'est pour les enfants, d'autant plus qu'on a voulu tirer Ravel du côté de la figure de l'enfance. Je pense pas que ce soit artificiel, hein, parce que Ravel a écrit des enfantines d'une certaine façon avec Ma Mère Loi. Évidemment, on songe à l'enfant des sortilèges. On songe à sa propre enfance, qui était une enfance plutôt heureuse, baignée de lumière, de soleil, et d'amitié et de l'amour que lui portait sa famille. Et il la lui rendait bien. Et puis, c'est aussi le Ravel que décrit Colette, dont on parle beaucoup, en petit écureuil, ou encore Roland Manuel lui-même en jockey, c'est-à-dire l'homme de petite taille, qui est obligé d'être réformé, contre son gré, malgré ce qu'il aurait voulu, pendant la Première Guerre mondiale. Donc il y a comme ça cette espèce de fil directeur, l'un des fils directeurs de ce livre, qui est effectivement la question de l'enfance.
Voilà, ça fourmille de choses, il y a l'Espagne, les parents, les amis, les apaches, les professeurs, évidemment, et puis il s'arrête sur certaines compositions, et puis il y a quand même quelques fils, l'enfance dont on vient de parler. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, j'y suis jamais allé, c'est Montfort-l'Amaury, c'est ce belvédère où est ancré ce roman graphique. Les lieux autour, les différentes pièces, c'est un décor fondamental dans le livre.
C'est un très beau décor. Nous y sommes allés plusieurs fois avec notre illustrateur Alexis Cavaillès et Guillaume Métayer. C'est une espèce de maison de poupée, mais pas tout à fait en miniature, comme un microcosme de ce qu'était la vie de Ravel, avec des chinoiseries, avec une espèce de bric-à-brac coloré, toujours très bigarré, très intéressant. Sa bibliothèque qui permet de connaître ses goûts littéraires, qui était très sûr. Et c'est un lieu absolument magique, et je crois que le pinceau d'Alexis Cavaillès lui rend vraiment hommage dans ce livre, parce que il est à la fois très fidèle à l'esprit et à la lettre. À la lettre, parce qu'encore une fois, grâce au croquis qu'il avait pris lorsque nous avions visité cette maison et grâce aux quelques photos qu'il avait prises, on a pu avoir quelque chose, je pense, d'assez fidèle. Mais c'est une maison magique et j'invite nos auditeurs à aller la visiter.
Carole Beffa, Ravel, un imaginaire musical avec Alexis Cavaillès et Guillaume Métayer. On a évoqué l'enfance, on évoque ce lieu, Montfort-l'Amaury, puis vous l'avez évoqué, il y a également la guerre, même s'il n'a pas pu aller au front comme il le souhaitait, Ravel, mais il a écrit ce tombeau de Couperin qui, je crois, est l'une des œuvres qui sont les plus chères à votre cœur.
Oui, j'aime beaucoup le tombeau, en tout cas certains de ses mouvements. Je trouve que c'est dommage que Ravel n'ait pas tout orchestré, mais il a orchestré certaines des plus belles pages et c'est tant mieux.
Alors voici peut-être pas la plus belle page, si j'ai bien compris à votre goût, mais la toccata, ça va quand même.
Ça va très bien même, ça va très bien. Thank you.
Toccata du tombeau de Couperin, c'était Bertrand Chamaillou au piano, une toccata et un tombeau de Couperin évoqués dans Ravel, un imaginaire musical qui paraît au seuil d'Elcourt, signé Carole Beffa, notre invitée ce matin sur France Musique, avec Guillaume Métayer et Alexis Cavaillès, où Ravel, sur six journées, se raconte à Roland Manuel, raconte sa vie, ses inspirations, ses amis. On vient de le toucher du doigt, Carole Beffa. Votre Ravel, vous, vous l'avez découvert quand, comment?
Alors, je l'ai découvert d'abord jeune pianiste, très jeune pianiste, en jouant avec mon frère les entretiens de la Belle et la Bête dans ma Merlois. Donc, j'étais là-haut. Donc, c'est moi qui faisais d'une certaine façon la Belle et lui, il faisait la Bête, mais nous ne le savions pas à l'époque. Et je pense qu'il aurait été très triste de l'apprendre. Et puis, ça a été assez vite d'autres pièces de Ravel pour piano, la Sonatine. Puis, lorsque j'étais au Conservatoire National en classe d'harmonie, Ravel était au programme. Et c'est là où je me suis vraiment plongé dans les sortilèges de son harmonie, qui est quelque chose d'une sophistication extrême par moment et à d'autres moments d'une simplicité ou d'une apparente simplicité très rafraîchissante. Et là, ça a été par exemple les miroirs, par exemple les valses nobles et sentimentales, le quatuor aussi. Donc je pense qu'il n'y a pas une pièce de ce compositeur parfait qui n'a absolument aucun déchet que je n'aime. J'aime à peu près tout Ravel. Mais c'est vrai que ma découverte en a été progressive et elle a peut-être commencé par le Ravel le plus extatique, le plus sensuel, le plus mystérieux, vraiment le Ravel des sortilèges, et elle s'est ensuite complétée de Ravel plus grinçant parfois, celui de la sonate pour violon et violoncelle par exemple, celui des Madécas, mais je trouve toujours un plaisir infini à la fois à écouter cette musique, à me plonger dans les partitions, et à essayer de faire partager mon plaisir.
Vous aussi, Carole Beffa, compositeur, l'enfance a une importance dans votre œuvre, dans vos compositions, comme Ravel.
Oui, alors j'ai un peu écrit pour les enfants des contes musicaux, et il y en a un quatrième qui est prévu pour cette noble maison Radio France avec le Filard en juin prochain, si tout va bien, sur un texte de Daniel Pénac, le roman d'Ernest et Célestine. Mais il y en a eu d'autres, notamment récemment, quelque chose qui est très souvent joué, qui est sur un texte de Mathieu Laine, Le roi qui n'aimait pas la musique. Et puis il y a des enfantines que j'ai écrites aussi pour piano, notamment des variations enfantines sur Au clair de la lune. Et quand j'improvise, il arrive fréquemment que le public dans la salle, à qui je demande des thèmes d'improvisation, cite des thèmes en rapport avec l'enfance, plus ou moins direct, qu'il s'agisse d'un vers de Baudelaire qui fait référence très directement à l'enfance, ou bien à la thématique l'enfant tout simplement. Je pense que oui, nous n'avons pas fini de nous émerveiller en contemplant l'enfance et sa diversité et sa richesse.
Miroir, c'est le titre d'une œuvre de Maurice Ravel. De l'autre côté du miroir, c'est le titre de votre disque qui paraît dans quelques jours, disque d'improvisation, sur lequel on trouve une inspiration également ravelienne.
Oui, alors là encore, c'était ce principe d'improvisation sur des thèmes qui m'étaient soumis. Et l'un d'entre eux était, à mon avis, d'inspiration particulièrement ravelienne, puisque c'était Bohème noble et sentimentale. Petit clin d'œil aux valses du même nom, des mêmes adjectifs. Donc, je sais pas. Forcément, lorsque vous avez ça, vous êtes tenté d'essayer d'adapter Ravel à une sauce un peu personnelle, ce qui est délicat, étant donné l'immensité de son génie. Vous avez l'impression que dès que vous déflorez un tout petit peu son style, vous ne pouvez que gâcher le total. Mais c'était la gageure qu'il a fallu tenir, comme Ravel a su si bien en tenir dans quantité de ses œuvres. Donc voilà, je proposais cet album qui a effectivement quelques titres raveliens.
Le disque sort le 11 octobre chez Indécence. En voici donc la Bohème noble et sentimentale. Carole Beffa improvise. Thank you. bohème noble et sentimentale, Carole Beffa improvise. Le disque s'appelle De l'autre côté du miroir. Il paraît le 11 octobre. C'est votre troisième disque d'improvisation, Carole Beffa. N'y a-t-il pas un paradoxe gravé pour l'éternité de la musique improvisée?
Bien sûr.
Toute l'histoire du jazz.
Non, mais vous avez tout à fait raison. D'autant plus que de temps en temps, lorsque je fais un concert d'improvisation en public, que quelquelqu'un dans le public vient me voir après en me demandant si ça a été enregistré. Le plus souvent, ça ne l'est pas. Et j'ai l'impression que la personne est un peu déçue. Et puis, j'essaie de lui expliquer que on a en général tendance, en tout cas en Occident, à considérer que l'œuvre achevée, l'œuvre parfaite, c'est l'œuvre qui doit rester pour l'éternité, alors que effectivement une improvisation, quelque chose de plus fragmentaire, de plus éphémère aussi. Donc il peut y avoir quelque chose d'un peu paradoxal, mais d'une certaine façon, la personne, quand elle me dit est-ce que ça a été enregistré, espère pouvoir la réécouter. Il n'est pas certain que son souvenir sera aussi saisissant, on va dire, à la réécoute qu'au moment où il écoute pour la première fois. En tout cas, graver une improvisation, ça ne me pose plus de problème, même si au début je me posais effectivement quelques questions. C'est une façon tout simplement de faire connaître un style qui n'est pas forcément le même. La plupart des compositeurs, je prends les génies de Franck à Messiaen, qui étaient aussi des improvisateurs, avaient un style d'improvisation peut-être moins avancé, globalement plus consonant. Donc c'est souvent une autre facette de leur personnalité qui peut apparaître, et tant mieux si le disque permet de faire ça.
Le disque paraît le 11 octobre, vous improviserez le 8 à Arles, le 17 octobre à Nantes au Château de la Poterie, le 24 octobre à Châteauroux et le 26 ici à la Maison de la Radio pour la Scarlatti Night Fever. Ce sera donc des improvisations autour de Scarlatti pour parachever cette grande année Scarlatti ici sur France Musique. Vous savez déjà ce qui va se passer?
Pas tout à fait, je sais que ça va être probablement un thème qui va être soumis par le public. En fait, de thème, ce sera probablement une des sonates qui sera donnée. Et peut-être que j'aurai un iPad sous les yeux qui me permettra de savoir laquelle c'est.
Et parce ensuite, que vous les connaissez pas.
Et non, curieusement, je ne connais pas les 555. Voilà, ce sera peut-être ça ou autre chose à voir.
Carole Beffa, le 26 octobre à la Maison de la Radio pour cette nuit Scarlatti. Cette Scarlatti Night Fever, Ravel, un imaginaire musical, avec également Alexis Cavaillès et Guillaume Métaillé. Ça vient de paraître au Seuil Delcourt, un livre que vous signerez le 14 novembre à la librairie du Théâtre des Champs-Élysées à Paris et le 28 septembre à la librairie Tchan Jeunesse. Merci,
merci
Carole Beffa. Et c'est sur cet extrait du quintet La Truite de Schubert que nous quittons. C'était notre jeu de tout à l'heure, d'il y a une heure. Dans le quintet La Truite, il y a donc 5 instrumentistes. C'est d'une logique imparable. Notre invitée demain sera Anne Kefelec. Le générique de l'émission du jour, Salomé Coq, Marion Guillemet, Margot Muller, David Travailleur, Antoine Giraud et Frédéric Potry. Juste à côté de moi, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour.
Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. On va aussi écouter ce que je pense qu'Émilie vous a parlé de Jean-Éflamme Bavouzet.
Oui.
Oui.
Vous n'écoutiez pas?
Si, mais on va pas écouter que Jean-Éflamme Bavouzet dans cette émission.
Vous êtes sûr?
On va aussi écouter Egmont de Beethoven, qui est une partition qu'on n'entend pas si souvent, parce qu'il y a un récitant en allemand.
Je préfère écouter Jean-Éflamme Bavouzet.
Voilà. Oui, je me souviens de Léo Ferré récitant également d'Egmont.
Ah, ouais. Vous nous ferez écouter.
Ouais, avec plaisir. Parce que ce sera tout à fait adéquat le matin. À demain.
À demain. Enfin, à tout à l'heure.
À réécouter sur francemusique.fr.